venu voir Paris, il est professionnel.
RMC.
Un névrosé peut pas être un professionnel.
10h-13h.
Il va bien y en avoir un dans le tas qui est pas complètement givré.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
Mais je n'ai aucune envie de voir des gens complètement fous.
Je déteste bosser avec des psychopathes.
Les grandes gueules.
Oui, je sais. Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant.
Les grandes gueules, les GG, c'est tous les jours en direct hein, sur RMC de 10h à 13h. Des grandes gueules qui sont aujourd'hui Charles Consigny, Marie-Anne Soubré, Claire Aupetit. 12h40 tout à l'heure, le GG et vous, c'est, vous savez, 20 minutes à votre disposition, un quart d'heure à votre disposition pour reparler avec les grandes gueules de ce que vous avez pu entendre, qui vous a peut-être un peu froissé, j'allais dire défrisé, parce que c'est presque le mot qu'on va employer dans un instant. Défriser les propos de Charles, de Marie-Anne ou de Claire. Bien sûr, de quoi a-t-on parlé aujourd'hui? De Manuel Valls qui va exonérer les retraités modestes des impôts locaux, mesure électoraliste, Nicolas Sarkozy cité dans l'affaire Air Cocaïne, la géolocalisation de l'ancien président de la République, l'opération de com' de l'Elysée avec Lucette qui a raconté de manière spontanée et tranquille à BFM TV, à Salia Braclia, ce qui s'était passé, comment on avait organisé la visite du président à Vendeuvre. Bref, tout ce qu'on a pu dire dans les grandes gueules, on le reprend tout à l'heure avec vous en direct. Au 32-16 à 12h40 dans le JG, vous.
RMC, le grand oral des grandes gueules.
Je disais défriser, si des propos vous ont défrisé. Et justement, on arrête de défriser, on refrise avec le livre Afro signé Rokhaya Diallo et Brigitte Sombier aux éditions Les Arènes.
Rokhaya Diallo, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, écrivaine, réalisatrice, fondatrice de l'association Les Indivisibles. Et donc, avec ce nouveau livre, Afro, ce sont des portraits de femmes qui assument ce qu'elles sont quand l'identité passe par la chevelure.
Des femmes et des hommes. Il y a aussi quelques hommes, ils sont minoritaires, parce que souvent les hommes ont les cheveux plus courts. Mais l'idée, c'est que ce sont des femmes et des hommes qui sont, pour la plupart, afro-descendants, métissés, et qui portent leurs cheveux tels qu'ils poussent sur leur tête, donc naturels, frisés, crépus, et qui l'assument.
Et pourquoi c'est finalement important de parler de cette identité, de le fait d'assumer de qui on est par les cheveux?
Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai noté, ce qui est notable, c'est que chez la plupart des femmes, surtout des femmes en fait d'origine maghrébine ou noire, la pratique c'est de défriser son cheveu, de porter le cheveu en brushing, et en fait on a beaucoup
pour
de mal.
Pour
ressembler au canon dominant. Le canon dominant, c'est le cheveu lisse. C'est vrai que si on regarde les unes de magazines féminins, généralement on voit des femmes avec les cheveux longs et lisses. Mmh. Et c'est vrai que quand on est avec des cheveux crépus ou frisés, on a tendance à croire que nos cheveux ne sont pas beaux. Donc on se vit comme devant transformer notre nature de cheveux, et finalement ceux qui font un autre choix sont un peu perçus comme étant à contre-courant. Et du coup moi je voulais célébrer un peu les gens qui font ce choix pour dire que finalement on n'a pas de raison d'avoir honte de ses cheveux, on peut les assumer, et ça raconte en fait énormément de choses sur l'intimité, sur le rapport à la majorité, le rapport à la France également.
Ça va au-delà effectivement simplement de l'apparence physique. Parmi les personnalités qui se prêtent au jeu de la photographie du portrait, il y a Fatima Aït Bounoua qu'on connaît bien ici puisque c'est une grande gueule, professeure de lettres, 34 ans, et qui raconte que quand elle a commencé à enseigner au collège en 93, les enfants lui ont posé la question: « Ah madame, il faut faire un brushing, c'est mieux. » Et elle répondait en plaisantant: « Non, c'est l'Afrique. Je laisse l'Afrique sur ma tête. »
Bah c'est pour montrer justement que les cheveux ce sont des marqueurs identitaires. Les cheveux c'est vraiment un marqueur identitaire qui marque des origines, et en l'occurrence effectivement Fatima Aït Bounoua est d'origine marocaine, et c'est un rôle modèle dans le sens où elle tous les ans en fait elle est face à des adolescents en posture d'autorité, et elle incarne quelque part un modèle. Et pour des adolescents dont beaucoup sont d'origine maghrébine ou noire, d'avoir une prof qui porte ses cheveux naturels là où ils sont dans un monde, en fait le monde dans lequel on vit, c'est le monde de Beyoncé, c'est le monde de Rihanna, qui sont des femmes noires mais qui ont les cheveux lissés. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a un portrait de sa classe de quatrième du collège de Bobigny. Et elle, ce qu'elle note aussi, c'est que ses élèves, au départ, en fait, lui disent: madame, faut faire un brushing, etc. Et que finalement, quelques-unes des jeunes filles finissent par laisser leurs cheveux naturels au fil de l'année parce qu'elles se sentent moins obligées de ressembler à nos chères Beyoncé et Rihanna.
Marie-Anne Souré.
Ce que je disais à Rokhaya, c'est que je vais offrir de toute urgence ce livre à ma fille, parce qu'il faut qu'elle arrête justement de se défriser les cheveux.
Mais pourquoi elle se les défrise?
De lui dire.
Pour ressembler à Beyoncé?
Parce qu'elle a 13 ans et demi, parce que effectivement, elle a des souvenirs aussi, elle a les cheveux frisés, parce qu'elle est métisse, et les gens, en fait, lui caressaient la tête comme à un petit chien. Et effectivement, les gens se sentent autorisés, et elle me dit, c'est insupportable. Alors quand elle est cheveux lisses, on vient pas te caresser la tête. Et Rokhaya me disait que les gens le font même à des adultes.
Ah oui, il y a trois pages en fait de témoignages de gens qui expliquent qu'on leur touche les cheveux, que ceux qui ont du volume notamment, qui voient des mains plongées dans leur sur leur tête dans le métro, de gens qui disent je peux toucher mais ils ont déjà la main jusqu'au coude dans la chevelure. Et c'est vrai que moi j'ai les cheveux très très courts pendant longtemps et depuis que ça pousse un peu, je sens qu'il y a un intérêt et que les gens ont envie de voir quelle texture c'est. Mais comme
si vous d'Alain Marchal qui est pas très loin. Hein.
Ouais non, j'ai mis un peu de distance. Mais il y a des gens qui disent j'ai l'impression d'être un caniche quoi. C'est vraiment.
Mais par contre moi ce que je voulais bien faire préciser, en fait, je voudrais pas que votre démarche soit interprétée comme étant aussi une façon de dire que le modèle dominant est imposé par les blancs. Il me semble aussi que dans les pays d'Afrique où il n'y a pas de aujourd'hui, d'ailleurs Dieu merci, il n'y a plus de blancs dominants, les femmes
économiquement
quand même,
si. Hein.
Oui, non, mais je veux dire, bon, il n'y a plus de
couleurs. Les femmes se défrisent aussi.
Mais les femmes se défrisent. Absolument. Les femmes se, il y a des cancers de la peau puisqu'elles essayent de se blanchir la peau. Donc ça, c'est aussi.
Alors pourquoi?
Comment ça se fait?
Pourquoi?
Parce que les canons dominants mondiaux, en fait, on est dans un monde qui est globalisé. Donc les femmes en Afrique, elles ont accès aux Vogue, aux Elle, elles ont accès aux mêmes magazines féminins que nous. Et encore une fois, les femmes les plus connues dans le monde aujourd'hui, c'est qui? C'est Michelle Obama, c'est Beyoncé.
C'est les hommes aussi qui imposent ça aux femmes.
C'est Beyoncé, je termine sur cette idée. Comment s'appelle-t-elle? Oprah Winfrey. Donc ce sont des femmes afro-américaines qui sont noires, mais qui portent des cheveux lissés. Donc on est exposé à ces modèles-là. Donc je sais pas quel rôle jouent les hommes, mais je pense que on vit quand même dans un monde où on a tendance à croire que plus on est clair, plus on a les cheveux lisses, plus on est beau.
Et c'est aussi que Michelle Obama, elle se défrise parce qu'elle veut ressembler au blanc?
Mais parce que non, je pense que si elle avait eu un afro, elle aurait effrayé l'électorat blanc de Barack Obama. Et je suis pas sûre que ce serait bien
passé.
Elle
a une coupe afro.
Et juste pour terminer sur ce que je disais avant, c'est aussi pour les mêmes raisons que les Chinoises se débrident les yeux. C'est parce qu'il y a un modèle dominant.
Et quand dit-elle Christiane Taubira? Parce qu'elle fait partie des portraits justement. Ouais. Quand dit-elle? Parce que elle revendique, elle aujourd'hui, ses tresses. On le voit au quotidien, Christiane Taubira, la garde des sceaux.
Bah c'est marrant, ça fait une belle transition avec la question précédente parce que j'avais fait un documentaire avec des jeunes américaines qui visitaient la France et donc il y avait notamment dans le groupe des afro-américaines, elles sont allées à la chancellerie donc rencontrer la garde des sceaux Christiane Taubira et en fait elles étaient choquées, elles m'ont dit mais j'arrive pas à croire que votre ministre de la justice porte des tresses, nous aux États-Unis jamais Michelle Obama ne serait permettrait une telle coiffure parce que c'est un message politique. Et Christiane Taubira raconte très très bien comment lors de sa campagne, sa première campagne pour devenir députée en Guyane en 93, ça a été un argument de ses adversaires qui disaient mais mon Dieu, cette femme avec sa coiffure africaine, sous-entendu elle n'est pas de chez nous. Et finalement elle est rentrée à l'Assemblée avec ses tresses, mais pour elle ça a été aussi un combat et un enjeu politique.
Est-ce qu'on devrait dire afro-française?
On dit ce qu'on veut en fait. Moi je pense que chacun se définit comme
il
veut.
On ne le dit pas aujourd'hui afro-française.
On dit en fait.
Vous le dites vous?
On dit afropéen. Afropéen, c'est afropéen, afropéenne. Moi, je trouve que c'est joli, en tout cas, à l'oreille. Je trouve que c'est très joli. Et ça a été inventé par les Nubians, qui est un groupe de musique, et puis repris beaucoup par Léonora Miano, l'écrivaine. Pourquoi pas? Parce que je trouve qu'on a tous, en tout cas, on est de plus en plus nombreux, en France et en Europe, à avoir des identités complexes. Certains ont envie de les revendiquer, d'autres non. Mais je trouve que c'est intéressant de permettre aux gens de laisser une place aux identités multiples. Je trouve que, par exemple, les Américains se disent afro-américains, asiatiques-américains, irlandais-américains, et il n'y a pas plus patriote que les Américains.
Oui, mais c'est un modèle qui repose sur le communautarisme et sur l'assemblage de communautés qui, effectivement, pour le coup, peuvent en même temps se retrouver sur la défense du drapeau américain. Effectivement, on comprendrait pas, comme aux États-Unis, si que chacun mette un petit drapeau français dans son jardin, mais c'est normal aux États-Unis. Mais c'est quand même des communautés qui vivent les unes à côté des autres.
Plus ou moins, et en même temps, c'est un pays dont les blancs peuvent élire un président noir. C'est un pays où les Afro-Américains, ils leur demandent pas tous les quatre matins d'où ils viennent, parce qu'on n'estime pas.
Oui,
disons,
enfin, c'est un pays aussi où régulièrement il y a des noirs qui se font tabasser par des policiers blancs.
Cet été, donc je connais bien la situation. Je suis en train de faire un documentaire. Non, bien sûr, je suis en train de faire un documentaire sur les Afro-Américains.
Une image idéalisée des États-Unis.
Bien sûr, mais la France n'est pas un pays idéal, et si on parle de communautarisme,
c'est pas non plus le pire.
C'est pas le pire, mais les États-Unis c'est pas le pire non plus. Il y a des pays qui sont pires, et je pense que dans les deux pays il y a des choses à prendre et à laisser. Et je pense qu'en
mais est-ce
France,
que ça doit être un modèle, ou est-ce qu'il faut pas inventer notre propre modèle?
Je pense
par rapport aussi à notre parcours.
On peut parler d'un
ancien pays colonisateur.
On peut parler d'un pays qui divise moins. J'étais à Montréal à la fin de la semaine dernière. C'est un pays d'Amérique du Nord qui a une culture américaine, mais aussi qui s'inspire notamment au niveau du Québec de la France. C'est un pays qui a inscrit le multiculturalisme dans sa constitution depuis plus de 40 ans, et c'est un pays qui est hyper intéressant parce qu'il est situé en Amérique du Nord. Donc il y a des choses très similaires avec ce qu'on peut voir aux États-Unis. Et c'est un pays qui est extrêmement multiculturel. La gouverneure générale, les deux gouverneurs du général dans les années 2000 du Canada, c'était une femme d'origine asiatique, puis une autre femme qui était née en Haïti. C'est quand même la gouverneure générale. À un moment où nous, en France, on n'envisage toujours pas. On sait qu'en 2017, il y a très, 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 très peu de chances qu'on ait un responsable.
Enfin, vous avez cité Christiane Taubira.
Mais justement, est-ce que, à un moment donné, ça tourne pas quand même à l'obsession, tout ça? C'est-à-dire que.
Vous trouvez?
Je sais pas, vous arrivez avec ce livre, j'ai regardé
vous
un peu. Non, pas du tout.
Je me sens un peu fébrile, là.
Non, je me sens pas agressé, absolument pas. Je suis absolument pas fébrile, puisque moi, je me moque complètement des couleurs de peau, des religions.
Oui, parce que vous êtes blanc.
Des origines ethniques et
c'est
tout ça.
C'est facile de s'en moquer quand on n'est pas exposé à un renvoi systématique à sa couleur de peau.
Oui, enfin, si je vais en Seine-Saint-Denis, par exemple, peut-être que j'aurais des problèmes. Je sais que vous niez le racisme anti-blanc. Moi, je pense que c'est quelque chose qui existe, figurez-vous.
Vous avez eu des problèmes en Seine-Saint-Denis?
Il va pas. Non, mais
je sais,
comme les vôtres. Je sais qu'il y a dans un certain nombre de collèges et de lycées d'Île-de-France, je sais qu'une insulte comme sale français, comme face de craie, etc., c'est quelque chose qui existe. Et moi, j'en ai marre qu'on parle de ça au bout d'un moment. Pourquoi en permanence renvoyer les gens à ce à quoi ils ne peuvent rien? C'est-à-dire que quand vous êtes noir, blanc, juif, d'origine française ou étrangère, vous n'y pouvez rien. Pourquoi sans cesse remettre les gens là-dedans? Pourquoi les bloquer là-dedans?
Il y a
un moment, ça devient... Non, mais par exemple, votre livre, vous prenez ces gens qui ont par ailleurs des professions, qui ont des parcours très différents les uns des autres.
Absolument.
Mais vous prenez comme facteur de rattachement leurs cheveux, c'est-à-dire en fait leur origine ethnique.
Ils sont très différents.
Je sais même pas comment parler comme ça.
Plusieurs
parce que
pays,
moi j'ai entre les mains là un livre, je sais même pas comment appeler cette origine, parce que c'est un livre raciste,
c'est un livre,
fondamentalement.
Bien sûr, c'est un livre raciste, absolument, qui s'élève à la diversité culturelle.
C'est totalement ethnicisant,
c'est
une lecture
permettez-moi de répondre. Alors moi ce que je trouve intéressant, c'est que vous parliez de territoires que vous ne connaissez pas. Moi il se trouve que j'ai passé toute mon adolescence en Seine-Saint-Denis. Apparemment, vos collègues considèrent que vous n'allez pas en Seine-Saint-Denis.
Mes collègues, ils passent pas ma vie avec moi. Moi, je déteste ce petit jeu médiatique.
Oui, donc vous êtes un grand expert.
Tu vas
de
en
la Seine-Saint-Denis,
t'y vas pas, j'en ai marre de ça. Mon père est prof de français à Pantin. J'ai des témoignages, ça va. Je déteste ce genre de petit jeu. Et typiquement, ça met de l'eau au moulin, ce genre de
petit jeu. Moi, je suis très étonnée par votre agressivité, en fait.
Vous faites des sous-entendus idiots, je suis désolée.
Vous êtes hyper. Alors,
ne faites pas de sous-entendus.
Vous ne permettez pas de me parler de cette manière-là, d'accord? Donc, on va rester dans un cadre.
Non, mais vous faites des sous-entendus.
Vous ne parlez pas d'idiotie pour qualifier mes propos, d'accord? Donc, je suis ici de manière tout à fait amicale et conviviale, et je n'apprécie pas le ton que vous adoptez pour me parler. Je ne comprends pas pourquoi ce livre déclenche chez vous autant d'agressivité. C'est un livre que j'ai fait pour célébrer
vous
la diversité avec des gens qui sont absolument souriants, des portraits de gens qui sont divers,
plutôt positive attitude d'ailleurs.
Absolument, la photographe Brigitte Sombier a fait des photos que je trouve formidables. Et quand vous dites, vous voyez des gens qui sont rattachés par une chose similaire, sont des gens qui sont originaires de dizaines de pays différents, des territoires d'outre-mer. Qui ne se ressemblent absolument pas, dont la profession, l'âge sont mis en avant et qui montrent que la France aujourd'hui est plurielle. J'ai l'impression que ça vous met absolument
pas
mal à l'aise.
Mais moi, c'est
une France que je célèbre et que je veux honorer.
Je trouve qu'on nous bassine. Je dis simplement.
Je ne sais pas qui est ce on, mais je ne me sens absolument pas concernée par les personnes
dans les
qui vous
médias,
mettent autant mal à l'aise.
Dans les médias,
je ne suis pas les médias, Charles Consigny. J'ai écrit un ouvrage.
Est-ce que j'ai le droit de finir une phrase? Est-ce que je vais laisser finir votre phrase? Je trouve simplement que dans les médias, on nous bassine matin, midi et soir avec ce type de sujet. Le multiculturalisme, la diversité, les chances pour la France,
etc. Je trouve que
ça n'est pas un sujet intéressant. Je trouve qu'on en a marre.
Ça vous intéresse pas? Il y a d'autres gens qui sont intéressés.
Et vous pouvez être sûre, chère madame, qu'avec un livre comme ça, si vous faites votre promotion avec ça, vous pouvez être sûre que vous conduirez des gens vers le Front National, prétendez combattre. Parce qu'il y a un côté exaspérant.
Je suis sûre que votre discours n'a aucun impact sur le Front National.
Mais non, mais ça tourne à l'obsession toute votre vie, pivote autour de ça.
Je rejoins pas du tout l'agressivité.
Je ne suis pas agressive,
mais par contre, moi aussi, j'ai un petit reproche.
Je vous en prie.
Puisqu'on m'a parlé de cheveux.
Mm-hmm.
Donc moi, ça se voit pas. Mais j'ai les cheveux également. Toute petite, j'avais les cheveux très ondulés.
Mm-hmm.
Et c'était pas du tout à cause des catalogues ou quoi, ou qu'est-ce. Je n'aimais pas. Je ne supportais pas. Dès que j'ai pu me les faire lisser, je les ai lissés et ça n'avait rien à voir ni culturel, ni ceci, ni cela. C'était tout simplement ce que moi je ressentais. Parce que bien souvent, la façon dont nous sommes physiquement ne nous convient pas. Mm-hmm. On recherche toujours l'image de l'autre, ce qu'on aimerait être. On a toujours une copine qu'on trouve beaucoup plus jolie que nous, qu'on essaye de faire. Et ça n'a rien à voir sur le point culturel. Et il est dommage que dans votre livre, ce point-là,
esthétique, simplement, quoi.
Simplement esthétique. Ouais. Ce que l'on ressent. Vous, tu vois, il y a des personnes qui se regardent dans la glace, même des enfants petits qui n'ont pas aimé leur nez, ils vont avoir qu'une obsession dès qu'ils arrivent à la majorité, c'est de se faire opérer. D'autres, c'est les oreilles trop décollées. D'autres, c'est ces cheveux qui conviennent pas, la couleur. Hein, quelquefois, vous allez avoir des personnes qui vont avoir les cheveux roux qui ont envie d'être blondes, une blonde qui a envie d'être brune.
Alors, il y a juste le point de vue esthétique.
Et ça manque dans le livre.
Alors, moi, c'est un travail que j'ai fait depuis longtemps à la manière dont, surtout les femmes, hein, beaucoup plus que les hommes, sont soumis à des canons de beauté, n'ont pas forcément de satisfaction par rapport à leur physique. Moi quand même, ce que je note, moi ce que je trouvais intéressant par le trait justement du cheveu entre guillemets qui est lié à une origine ethnique, c'est que dans les témoignages il y a quand même une vraie récurrence, c'est-à-dire que malgré tout beaucoup des témoins racontent la même histoire sur
mais
le fait que
vous l'auriez fait de la même façon, vous auriez
c'est
vous
pas la même
interrogé...
histoire, ce n'est pas exactement
mais
la même
mais
histoire
mais cette histoire-là existe aussi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est
mais malheureusement je peux pas couvrir l'intégralité.
C'est pas
je vous invite vraiment à écrire sur votre histoire. Mais c'est vrai
non,
que je peux
c'est pas
tout
sûrement
écrire.
L'histoire, c'est tout simplement tout c'est l'histoire écrire. D'un physique là.
Mais c'est un autre livre.
Et à partir du moment et de ce physique qui ne convient, qui ne peut pas
c'est
convenir
un vrai
parce
livre
qu'on
à faire,
veut aller,
hein.
Mais ça va, c'est général. Et là, vous arrêtez uniquement sur les afros et ça me gêne. J'aurais aimé justement.
Parce qu'il y a une vraie récurrence dans les témoignages.
Qu'elle réponde, ok.
J'aurais été mieux.
Parce qu'en fait, les témoignages se font écho et font vraiment écho à une origine particulière, à une origine ethnique et au fait que leurs cheveux les rattachent et les renvoient dans le regard des gens. Parce que, en fait, ce qui est mal compris, c'est que moi, quand on me dit que je me complais. Non, mais juste, permettez-moi de terminer. Moi, quand on me dit que je me complais dans le fait d'être noire, moi, je me suis vécue jusqu'à 25 ans comme étant une française lambda, jusqu'à ce que les gens m'interrogent en me demandant de manière permanente d'où je venais, pourquoi je parlais aussi bien le français, voilà. Et c'est ça en fait qui fait que moi j'ai fini par comprendre que j'étais noire parce que je suis devenue noire dans le regard des gens. Moi je suis née à Paris dans le 4e arrondissement.
Vous avez fini par
j'ai grandi dans
le
19e. Non, mon métier c'est journaliste, je fais des documentaires et des reportages.
Exclusivement
sur
ça. Arrête
pas de nous dire également.
Tout tourne autour de ça.
Absolument pas.
Tout tourne autour de ça.
Les Yabon
Awards.
C'est
ce que vous voyez. Je me souviens d'avoir vu. Bah oui, mais
l'antiracisme.
Toute votre vie tourne autour de ça.
Parce que c'est un combat qui me semble important aujourd'hui en 2015.
Une obsession. Mais
c'est
enfin.
Pas une obsession, c'est un combat.
Ah, parce que le racisme est un problème majeur aujourd'hui en 2015 en France.
Il y a énormément de gens que je respecte énormément qui ont consacré leur vie à la lutte contre les inégalités.
Mais vous n'êtes pas Martin Luther King. Hein. Je suis désolé de vous
mais
décevoir.
Je vois pas le rapport entre moi et
Martin
Luther King.
Vous n'en êtes pas là. Mais non, parce que on a l'impression que vous êtes dans un combat fondamental. Comme si vous étiez dans un combat fondamental, important, vraiment le premier sujet aujourd'hui en France.
Attention.
Premier sujet aujourd'hui en France. Non, vous faites des reportages payés par des chaînes financées par l'État sur l'égalité et les gens sont très contents de payer pour ça. Moi, je suis désolé, je pense qu'aujourd'hui, franchement, en France, il faut qu'on dépasse ces combats-là, que ce sont des combats de d'arrière-garde qui n'ont
c'est
plus lieu d'être.
C'est tellement facile à dire quand on est
assis avec son petit costume. Ce sont des armes politiques.
Et qu'on subit pas justement.
Mais vous n'en savez rien, vous ne connaissez rien. Moi, je vous offrirai mes propres livres. Moi, je pense que je le dis en toute objectivité. Je le dis sans vouloir faire de polémique, je pense qu'en France, à force de vouloir rester bloqué.
J'adore votre objectivité, elle est vraiment, elle fait chaud.
Et la vôtre. À force de rester bloqué dans des combats comme ça, on ne passe pas à autre chose. Et c'est à force de ne pas passer à autre chose que notre pays est politiquement sclérosé.
Je ne suis pas venue pour avoir une psychanalyse, mais je vous remercie.
Rokhaya Diallo, Afro avec Brigitte Sombier aux éditions Les Arènes. Dans un instant, la question de Marianne Soubré. Mais il y a le temps, on a encore un quart d'heure, ma chère Marianne. Ne sois pas impatiente, au contraire, ça continue.
RMC, les grandes gueules. RMC, le grand oral des grandes gueules.
Grand oral des GG avec Rokhaya Diallo, ce livre afro aux éditions Les Arènes avec Brigitte Sombier, au comment aujourd'hui assumer une chevelure qui renvoie, c'est vrai, à une identité, mais qui peut être à la fois africaine, à la fois française, qui fait un tout. Et moi, je trouve que c'est un livre qui est plutôt positif.
Est-ce que vous allez envoyer ce livre à Nadine Morano?
Pour si elle le demande, elle le recevra. Après, je sais pas quel usage elle en fera. Peut-être ce sera pour sa fameuse amie noire.
Tiens, vous savez quoi? Chiche, en direct
pour
maintenant. Attends, en direct maintenant dans les GG Rocaïa, je vous demande de dédicacer Afro à Nadine Morano et on va lui envoyer. Allez, vous me les dédicacez.
Pour Nadine Morano.
Pour Nadine Morano, allez-y.
Comme ça, on a bien tiré sur une ambulance.
Pour Nadine Morano, c'est Rocaïa Diallo dédicace livre Afro pour un pays.
Définitivement.
Allez-y.
Multiculturel et multicolore.
Fini la dédicace.
Culturel. Rocaïa.
Comme dit Finkielkraut, Morano c'est Hitler et Booba c'est Rimbaud.
Voilà.
On y est
Diallo.
Ce matin.
On va l'envoyer. Le livre est dédicacé pour Nadine Morano. Merci Rocaïa Diallo. On va l'envoyer. Marianne Soubret.
Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à ce que disait Charles, parce que moi aussi, je peux faire partie de ceux qui n'aiment pas qu'on divise et qui pourraient considérer le communautarisme comme une forme d'agression. Et voilà, je le dis, mais sans aucune animosité. Et c'est vrai que ce livre-là, c'est exactement l'inverse, et je pense qu'il faut vraiment qu'on le dise. Au contraire, moi je trouve que c'est la France triomphante. Il y a un mot que j'aime pas dans ce que vous venez de dire, autant multicolore, bien sûr que la France est multicolore. Par contre, multiculturel, c'est un mot qui est peut-être un peu plus difficile à entendre, et je pense que la France n'est peut-être pas prête.
Surtout
même
quand
moi.
Tu enlèves le R, je pense.
Oui, non, mais ça, non, multiculturel, heureusement que la France est multiculturelle.
Oui, mais aujourd'hui, il est
ça,
difficile
il faut quand même
entendre.
Se rendre à l'évidence. Mais multiculturel, c'est peut-être que c'est une façon de faire passer une culture avant la citoyenneté, et c'est ça qui peut sembler un peu agressif.
Okay, mais la France est un pays qui est historiquement multiculturel. Avant la Révolution, la plupart des gens qui vivaient sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui la France ne parlaient pas le français. Il y avait des minorités linguistiques et culturelles, les Basques, les Bretons, les Corses. Aujourd'hui, on a plusieurs langues, dont ces langues régionales-là, mais aussi tous les créoles qui sont parlés dans les Outre-mer. Je trouve qu'on a toujours été un pays multiculturel qui s'est construit effectivement dans une idée d'unité, parfois d'une oppression même des cultures minoritaires, et on le voit avec toutes les questions qui se posent sur la charte de la signature, la non-signature de la France de la charte des langues régionales minoritaires. Mais je trouve qu'on l'a toujours été, et qu'aujourd'hui ce sont des cultures qui s'enrichissent avec des influences étrangères.
Oui, mais on est un pays qui a été colonisateur, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui on a du mal avec ce passé, on ne sait pas trop comment
on a du mal. On en parle. Le matin, midi et soir, mais on a du mal.
Non, parce qu'on en parle souvent mal, et soit on en parle avec nostalgie, laisse-moi terminer, parce que Charles Consigny, tu peux pas parler tout seul avant qu'on termine l'argumentation. Merci. Sans agressivité. Sinon, je t'envoie en Seine-Saint-Denis.
je veux pas, je me bats.
On en parle soit avec effectivement nostalgie, soit avec culpabilité.
Absolument.
Et on fait peser d'ailleurs sur les générations actuelles des choses que qui appartiennent finalement à nos ancêtres. Alors, comment en sortir de ça?
Bah déjà, moi je pense que ce que je trouve très important, c'est la manière dont on se vit et dont on se montre. Moi j'ai voulu faire ce livre justement pour présenter aux jeunes générations un visage de la France qui soit un visage actuel. Je trouve que Paris, l'image que Paris montre d'elle-même à l'étranger n'a absolument rien à voir avec ce qu'on peut voir dans les transports en commun. Quand on pense à Londres, quand on pense à New York, on voit des villes dynamiques, des villes multiculturelles. Quand on pense à Paris, on pense effectivement à tous ces beaux monuments.
Mais quand
qui
on
font
se balade
identité.
Dans Londres, on voit des femmes voilées. Est-ce qu'on assume ça?
On peut l'assumer dans la
non, parce qu'en France on l'a interdit.
Oui, des femmes, voilà, c'est le voile intégral qu'on a interdit. Mais moi ce que je trouve par exemple génial en étant français, c'est de me dire que mon pays, c'est le deuxième pays du hip-hop dans le monde derrière les États-Unis, c'est le deuxième pays du manga dans le monde derrière le Japon. La première émission de hip-hop au monde a été faite en France en 1984 et c'était HIPHOP. Et je trouve qu'on a une capacité, et tous les moi j'avais fait une interview avec Public Enemy, Chuck D, le rappeur de Public Enemy, le groupe mythique des années 80, il disait, mais dans les années 80, nous on voulait aller à la télé en France parce qu'aux États-Unis il y avait pas d'émission qui nous accueillait, et de me dire que voilà, mon pays, c'est ce pays-là qui est capable de faire des
mais ça
des
c'est ce pays qui
scènes.
Désespère un Alain Finkielkraut qui va venir ici au micro dire que ce que vous défendez, c'est la culture rebeu, c'est justement ça qui abîme la France, qui détruit la France.
Mais c'est ça la différence entre Alain Finkielkraut et moi, et peut-être avec Charles Consigny, c'est que nous
c'est l'agrégation de l'être,
c'est que nous on est optimiste. Moi je crois fondamentalement à notre capacité.
Alors
à cohabiter.
Consigny et Finkielkraut sont des dépressifs.
Non, moi je suis pas pessimiste.
Moi je trouve qu'il a pas l'air, en tout cas l'accueil qui m'a été fait n'est absolument pas
je trouve qu'on
agréable.
Parle toujours de la même chose, c'est tout.
Et je trouve que vous lisez sur
si
un ton qui confine au désespoir. Et après moi je crois qu'on
parce que votre livre est désespérant.
Parce que c'est pas la France
qui me désespère, c'est votre idéologie, ce livre et cette obsession.
Je crois que notre pays traverse effectivement une crise identitaire parce qu'on n'arrive pas à s'accepter tel que nous sommes aujourd'hui. Et je crois que la solution, c'est s'accepter, mais comment? En montrant aussi cette diversité-là à travers les médias.
Mais comment répondre à l'inquiétude que peuvent ressentir certains d'une façon tout à fait honnête et sincère, sans être forcément taxé de raciste ou de vouloir à tout prix exclure l'autre. Il y a des gens qui se sentent, voilà, ils ont l'impression de plus vivre dans la France telle qu'ils l'ont connue. Alors c'est pas seulement Nadine Morano, mais et qui l'exprime. Comment leur répondre?
Mais déjà, il faut leur dire que c'est vrai, effectivement, la France d'il y a 40 ans, c'est pas la France d'aujourd'hui.
Il faut l'assumer.
Et la France dans 40 ans, ce sera pas la France d'aujourd'hui non plus. Et c'est comme ça, il y aura sans doute plus de gens d'origine chinoise, plus de Français d'origine chinoise qui seront visibles en politique. Peut-être que dans 40 ans, notre président sera un Français d'origine chinoise. Je pense qu'il faut l'accepter. Et après, comment l'accepter? Eh bien, peut-être à travers le cinéma, à travers les imageries populaires qu'on construit et qu'on arrive à rendre visible, à rendre public. Alors, je prends l'exemple des États-Unis, non pas comme un pays idéal, mais je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire dans la culture, c'est cette manière d'ingérer les cultures populaires et d'en faire quelque chose à travers le cinéma. En France, finalement, où sont nos Lucy Liu, où sont nos Jennifer Lopez, qui sont des gens, quand on voit que Will Smith...
L'acteur le plus populaire, c'est Omar Sy.
Absolument, mais quand on voit que Will Smith sauvait le monde dans Independence Day, il y a quelques années, que Morgan Freeman peut jouer Dieu dans un film américain...
Ou président des États-Unis.
Je me dis, voilà, quand est-ce que demain, on aura un acteur, un Frédéric Cho, qui jouera juste dans une comédie sentimentale quelconque et qui sera finalement le Guillaume Canet de sa génération?
C'est pour dire que ça avance
Marcy,
aussi.
Le cinéma est quand même à fond sur cette ligne d'une façon générale.
Il a mis du temps.
Charles, français. C'est quand même étonnant.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est fou d'arriver à dire des choses aussi.
Mais regarde, les choses en face, on dirait chaque fois que quelqu'un vient parler de sa couleur, ça t'agresse.
Mais c'est une obsession, on ne parle que de ça matin, midi et soir, sur toutes les radios, sur toutes les chaînes, au cinéma, tous les films sont là-dessus. La banlieue, la ville, les gens d'origine étrangère, les lycées, etc. Mais c'est toujours la même chose, vous en rendrez même plus compte. Enfin, vous, je comprends, c'est votre business maintenant, pourquoi pas, chacun.
Oh oui, ça m'a rendu millionnaire.
Chacun fait ses affaires comme il
veut.
C'est
ça que vous enviez, en fait, c'est
encore,
ma fortune.
Et encore heureux que.
Vous êtes blanc, vous pouvez pas faire un livre sur votre couleur de peau parce que c'est moins vendeur, c'est ça.
Je pourrais le faire moi aussi, m'estimer discriminé parfois.
Ouais, vous
immédiatement, vous m'avez dit que j'étais blanc, mais par
et
ce genre de choses, par
blanc,
cette espèce d'obsession
grave,
générale. Vous attaquez en permanence les gens en pensant qu'ils sont racistes et vous êtes obsédé par les couleurs de peau. C'est quand même bizarre, je suis désolé. Moi, à mon sens, ça tient de la névrose obsessionnelle. Mais chacun appréciera. Je pense que c'est une névrose obsessionnelle largement partagée dans les médias et je crois qu'il serait grand temps en France qu'on en sorte et je pense pas que ça nous grandisse de remouliner ça matin, midi et soir. Je crois au contraire que ça nous sclérose.
Vous avez bien dans
mais
votre rôle
peut-être,
de...
peut-être justement, Charles, que si on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas résolu. Et je dis que c'est un problème, c'est de savoir à quoi ressemble la France aujourd'hui. Et quand tu regardes les médias, on en fait partie, quoique les grandes gueules de moins en moins, mais les médias et les élites ne ressemblent pas au pays aujourd'hui.
Ça commence.
Mais regardez par exemple une émission comme Le Grand Journal. Ou C'est à vous, moi je suis désolée, c'est pas du tout aux couleurs de la France. Et c'est vrai que c'est encore plus marquant dans une émission quand C'est à vous, quand on voit que finalement, il y a effectivement une personne d'origine maghrébine, une personne noire, mais ils font la cuisine pendant que des blancs parlent de politique.
Mais le truc en termes de symbolique,
ça dit quand même des choses sur la place qu'on réserve aux minorités en France.
Charles, faut reconnaître qu'ici, nous, dans les grandes gueules, on a toujours essayé d'être.
C'est pas une mauvaise nouvelle.
On a toujours essayé d'être à peu près représentatif de ce qu'était la France, etc. C'est vrai que c'est pas encore le cas dans toutes les émissions. Mais en même temps, arrêtons aussi de nous auto-flageller.
Arrêtez de renvoyer les gens à leur couleur de peau. Charles, je peux terminer.
On est un peu aussi dans l'auto-flagellation. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se reprocher des choses, finalement, qu'on fait de moins en moins. Dans le gouvernement, vous parliez Christiane Taubira. Ça avance également dans les médias, dans la France de tous les jours. Et dans le boulot,
dans les mariages, dans les amitiés.
Je crois que la France est le pays où il y a le plus de mariages mixtes en Europe. Bon, voilà.
C'est quelque chose de positif.
Et là, je vais rejoindre un petit peu ce que dit Charles. Entre le dépressif Finkielkraut et puis la revendication parfois un peu en disant la France vraiment c'est un pays de racisme. Il n'y a pas une troisième voie qu'on pourrait et on se rassembler tous autour de cette troisième voie un peu positive.
C'est pour ça que j'ai vraiment cet ouvrage-là avait une vocation positive parce que les photos sont prises en extérieur. Il y a des femmes familles aussi qui sont des familles mixtes. On voit des mamans blanches qui ont des enfants qui sont métissés, qui expliquent que oui, les cheveux, ces cheveux-là, je m'attendais pas forcément à avoir à les prendre en charge. Et j'apprends. Et je trouve que c'est une manière d'expliquer comment on cohabite ensemble, parce que justement, on est ensemble, on fait des chemins ensemble. La France est quand même un pays qui connaît cette mixité à tous les niveaux. Et je trouve que effectivement, il y a des problèmes, il faut les reconnaître, mais il faut aussi faire part des avancées et des choses qui bougent. Et je trouve que cette acceptation du cheveu crépu, c'est une des choses qui peut aussi contribuer à l'avancement. Moi, je suis pas du tout, moi, je suis pas pessimiste. C'est pour ça que sinon, j'aurais absolument aucune foi dans mon combat. Je suis quelqu'un d'optimiste. J'ai eu la chance de grandir dans le nord de Paris, donc dans un endroit extrêmement divers et multiculturel. Et c'est la France que je connais et que j'ai envie de permettre à chacun de connaître, parce que je trouve ça hyper beau, en fait.
Rokhaya Diallo, on va se quitter avec un GG tweet rapide, voir ce que vous pensez de ces personnalités, faits d'actualité qui sont à l'ordre du jour. Et comment vous commentez si je vous dis Nicolas Sarkozy ?
Un peu agité.
Marion Maréchal Le Pen.
Elle a de l'avenir.
Najat Vallaud-Belkacem.
Bon élève.
Yannick Noah.
Très sympathique.
Omar Sy.
Grand acteur.
Lilian Thuram.
Grand ami.
Est-ce qu'il devrait plus s'engager justement dans les faits de société et la chose politique, à votre avis, ou pas ? Lilian Thuram, Omar Sy, Zinedine Zidane et autres.
Moi, je suis pas forcément favorable à cette injonction qu'on peut faire à des gens qui sont issus de minorités de représenter l'ensemble du groupe. Que quelqu'un comme Lilian Thuram s'engage, c'est son choix individuel, mais que Zinedine Zidane ou Omar Sy décident de ne rien dire, je trouve que leur couleur de peau ne devrait pas les forcer à prendre part au débat public, parce que justement, je trouve que déjà, ils ont une charge symbolique extrêmement forte en étant les seuls, en tout cas les plus connus dans leur domaine, et c'est pas la peine d'en ajouter. Moi, je trouve que Omar Sy, en étant qui il est, en ayant son César, il a déjà fait un pas énorme, il contribue déjà énormément à la cause. Et de la même manière, Zinedine Zidane, moi je lui demanderais pas de s'engager s'il n'en a pas envie. On a déjà des Jamel Debbouze ou des gens comme ça qui s'engagent.
Merci Rokhaya Diallo. Le livre s'appelle Afro.
Et on va envoyer l'exemplaire à Nadine Morano.
Bien sûr, elle l'a signé, on va l'envoyer. Signé avec Brigitte Sombier, c'est aux éditions Les Arènes. Dans un instant, on se retrouve ensemble pour le GG et vous. Juste le temps pour Éric Brunet de vous donner le menu.
Mais t'es encore là, Éric ? Ah bon, c'est bon, le quinquennat, c'est bon ?
Et alors, figure-toi que je vais tout à l'heure faire d'abord mon discours de réélection, effectivement.
Tu as été réélu.
J'ai été réélu, 78.
C'est truqué, monsieur Brunet.
Pas du tout, vraiment ça me gêne beaucoup que tu dises ça.
T'as vu, hein,
78,6% des 16 496 votants ont voté pour que je continue à présenter carrément
c'est
Brunet.
C'est quelqu'un qui permet d'avoir une implantation plus facile.
Non, mais j'ai fait moi. Tu sais, c'est Napoléon III, juste avant de quitter le pouvoir, il a fait un référendum et il a dit, j'ai fait mon chiffre. Ben moi, tu vois, j'ai fait mon chiffre. Ça a de la gueule, hein, quand tu cites Napoléon III.
Ah, bah écoute, oui.
Plus personne n'est là. Napoléon III, tout le monde se planque. Dès qu'il y a un peu de culture, un peu d'histoire.
Victor Hugo l'appelait Napoléon le Petit. Hein. Je sais pas si la comparaison est heureuse.
Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que Victor Hugo, sur cette affaire, a été un vrai salopard sur Napoléon III.
Ah, il fallait le dire.
Non, tu crois pas? Tu connais l'histoire? Il a.
Bah écoutez, vous allez en parler.
Je vais pas parler de mon émission.
Avec François Fillon, sur François Fillon.
On va parler effectivement de François Fillon. C'est très simple, je vais faire court parce que je te vois déjà tapoter du pied, tu veux me signifier qu'il faut que je termine. Alors voilà, il est sous-coté, François Fillon, les sondeurs et les journalistes l'ont quasiment enterré, et je pense que c'est une erreur et qu'il va remonter très fort dans les prochains mois. Voilà.
Et bien, vous en parlez avec Éric Brunet dans un instant, GG et vous, avec Waïs et Guillaume, pour reprendre la parole avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Allez, Gigi, vous au 32-16.
Allô ?
Allô, oui ?
Non, rien. Allez, hop, ça c'est fait.
Tu nous dis que tu regrettes, autrement je vais te le faire regretter.
Avec Guillaume, producteur artistique. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Bonjour, mon cher ami. Vous vouliez reparler ? Ah, bah tiens, avec l'ensemble des grandes gueules à propos du cas Verdier, alors. Philippe Verdier.
Oui, Philippe Verdier, qui effectivement se pose un petit peu en victime depuis quelques temps, et voilà, moi ça m'agace un petit peu, je dois le dire. Qu'en gros, à droite à gauche, il aille pleurer. Et voilà, j'estime qu'il paye un peu pour l'ensemble de son œuvre, après avoir un petit peu, eh bien, le fait d'avoir effectivement servi de sa position, de sortir un bouquin un mois avant, après le bouquin est-ce qu'il est, mais ensuite voilà, se servir de la possibilité de l'antenne pour pouvoir.
Donc il faudrait interdire tous les journalistes de France Télévisions d'écrire des bouquins, parce qu'il n'est pas le premier et le dernier à faire des bouquins et se servir de sa fonction.
Non, se servir de sa fonction, mais évidemment, après, peut-être ce problème de...
Non, je pense à Michel Drucker, parce que je crois que Michel a un livre en ce moment, il devrait peut-être arrêter aussi d'écrire, alors.
Patrick Sébastien,
il y en a d'autres, hein, ils ont tous écrit des bouquins un jour ou l'autre. Hein.
Alors la question qu'il faut se poser aussi, c'est pourquoi est-ce que personne ne parle du contenu de ce livre ? On ne parle que de Philippe Verdier à droite à gauche. Philippe Verdier, moi j'en entends pas souvent parler.
Il est venu chez nous et on en reparlait tout à l'heure. On expliquait peut-être ce qui avait fâché dans le livre sa direction.
D'accord, ça c'est effectivement son point de vue. Après, la direction est un petit peu se terre un peu dans le mutisme aussi. Il faudrait les interroger sur ce qu'ils lui reprochent exactement par rapport à cette mise à pied, cette lettre de licenciement. Bon, mais je trouve qu'il se met en scène. De façon un petit peu
donc c'est
extrême,
mérité pour
quoi.
Vous le licenciement
ah non, c'est mérité. Alors non mérité non ça parce que je suis pas dans les arcanes de ce qui s'est passé. Par contre, ce qui me dérange plus, c'est la mise en scène, le fait qu'effectivement il soit invité à droite à gauche, pas mal chez vous aussi, je dois le dire.
Une fois,
il est venu chez Éric Brunet aussi. Ouais. Bon, c'est de bonne guerre, il a travaillé chez vous, il était directeur du service météo il y a quelques années. Donc,
il n'est pas venu chez Éric Brunet.
Éric en a parlé, mais il n'est pas venu. Non.
Il en a parlé, oui, on a longuement parlé.
Vous savez, Guillaume, Claire Aupetit, bonjour.
Bonjour.
Vous vendez beaucoup plus de livres quand vous vous faites connaître. Hein. Ça s'appelle la communication. Vous avez aussi beaucoup d'artistes qui viennent nous vendre des films qui, franchement, c'est une honte d'aller payer ce prix-là pour aller voir le film. Donc voilà, effectivement, il a une certaine notoriété. Quand on le reçoit, on ne peut pas faire autrement qu'en parler. Il écrit un livre parce qu'il a une notoriété, sinon personne ne l'achèterait. Non, je ne vois pas ce que vous lui reprochez.
Merci Guillaume d'avoir été dans les GG. À bientôt Guillaume. Merci,
bientôt.
Bonne journée à vous. Et tout à l'heure, on se disait dans les grandes gueules à propos, vous savez, de Lucette, l'habitante de Vendeuvre, qui a reçu François Hollande dans une mise en scène assez calculée, puisque Salia Braclia de BFM TV est venue nous raconter ça. Ce serait bien d'avoir le maire socialiste de Vendeuvre-les-Nancy. Eh bien, il est avec nous, monsieur le maire Stéphane Ablot. Bonjour.
Bonjour.
Merci,
bonjour.
Monsieur le maire. C'est vous, donc, qui avez tout mis en scène pour que François Hollande rencontre Lucette ?
Alors, effectivement, vous avez raison, mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites sur l'expression « c'est pas une mise en scène ». Je vous dis exactement ce que j'ai vécu de A à Z. Mm-hmm. Quand j'ai été informé que Monsieur le Président de la République venait faire un discours au Conseil départemental, ils souhaitaient aller sur le terrain. Ils m'ont donc contacté pour savoir si on pouvait parler du thème du logement. Et j'ai organisé de A à Z. C'est-à-dire, quand il est arrivé, il m'a laissé carte blanche. Je lui ai fait rencontrer des jeunes qui jouaient sur un terrain, oui, qui vont parler librement. Je lui ai fait rencontrer des gens à l'école de musique. Je lui ai montré la ville que je vivais tous les jours et dans laquelle je vivais. Et Lucette, c'était la destination, la fin du trajet. Ça durait à peu près 3 quarts d'heure. Et donc, Lucette est quelqu'un qui habitait dans un logement en grande difficulté à l'époque, qui n'était pas très bien réputé. Et elle a réussi à changer de logement et à habiter dans un bâtiment qui était beaucoup mieux, qui était rénové, qui était neuf, qui était intéressant. Et je voulais qu'elle dise, qu'elle m'a toujours dit, qu'elle se sentait mieux là où elle était. Donc, évidemment, quand on reçoit le chef de l'État, 6e puissance du monde, au minimum, c'est une préparation. C'est pas une mise en scène, c'est une préparation.
Oui, mais on prépare les questions aussi, Stéphane Ablot, monsieur le maire.
Vous voulez. À mon avis, vous me connaissez mal, parce que moi, je suis pour, j'ai aucun tabou, et tout peut être abordé.
Mais pourquoi Lucette n'a pas pu poser sa question sur les migrants?
Alors, parlons des migrants, puisque j'ai une caserne avec des migrants, et j'ai moi-même dit qu'il fallait arrêter
Non, non, mais c'est pas vous, c'est Lucette. C'est Lucette qui voulait poser une question à François Hollande. Et elle n'a pas pu le faire. On lui a dit pas le faire.
Alors ne me parlez pas à moi de l'avoir muselé, parce que moi je suis pas pour la censure.
Non, mais j'ai pas que c'est deuxièmement, vous. J'ai que c'est
deuxièmement, regardez les médias comme ils ont transformé certains médias, pas vous, et je vous respecte, et c'est très bien de me donner la parole. C'est le scandale d'avoir offert le café au président de la République, ou alors des fleurs, ou alors des déchets, parce qu'elle en avait pas assez, la pauvre Lucette, que je connais depuis longtemps, et quand je dis ça, c'est vraiment amical, parce qu'elle pouvait pas recevoir et avoir les conditions minimum. Donc c'était pas une mise en scène, c'était donc une préparation.
Si, c'est un peu mise en scène.
Non, c'est pas vrai.
C'est vous qui choisissez la personne.
Eh ben, j'ai choisi la personne.
Et on lui dit de ne pas poser des questions sur les migrants.
Attendez, excellent ce que vous dites. Excellent. J'ai choisi la personne pour qu'elle dise librement les choses, comme d'autres personnes pendant 3 quarts d'heure avant. Ensuite, elle a dit des choses sur le logement, elle avait 10 minutes. Maintenant, si vous voulez qu'on parle des migrants, y compris avec elle, vous savez très bien que c'est un sujet qui n'est pas tabou et sur lequel on peut parler librement.
Tant mieux, mais elle n'a pas pu le faire, elle.
Ah ben, alors, c'est pas moi.
Avec le président.
Moi, je n'en ai pas parlé. Moi, pour ce qui concerne mon organisation, je l'assume totalement. Je suis pour la liberté d'expression. Je suis fier aussi. Et puis c'était pas le sujet c'était le logement. Et d'ailleurs, le président de la République a rencontré d'autres personnes avant qui lui ont parlé de ces sujets-là. Il a écouté. Et dans l'histoire, je peux vous dire, il n'avait aucun rapport avec l'organisation que j'assume totalement. Et on n'était pas au Fouquet's.
On était dans un appartement d'HLM, il y avait du café avec des tables et des chaises. Je vois pas le problème. Et c'est franchement l'exagération, mais c'est pas grave. Et encore une fois, merci à RMC de me donner la parole. C'est très bien de votre part.
Ah oui, mais bonjour Claire Petit, mais justement
bonjour,
votre
Madame
parole,
Petit,
ça aurait été bien de dire oui, effectivement, tout était préparé parce que quand on reçoit un président de la République, on ne peut pas faire n'importe quoi.
Mais c'est pas moi qui ai dit que c'était pas préparé, c'est les médias.
Il
non,
y a
c'est l'Élysée.
Mise en scène, voilà.
C'est l'Élysée.
C'est pas vous directement, peut-être. Mais il me
l'Élysée
semble,
n'a
il
pas
me
communiqué sur la préparation.
Ce matin, c'est,
alors,
que
alors,
c'était
je vais
vous qui aviez attaqué quand même pas mal la journaliste qui a été interrogée, Lucette. Vous avez
parce que il y a une expression terrible. Et je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, très très amicalement, et je lui ai dit toute ma colère en même temps, on était transparents. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de mise en scène. Une mise en scène, c'est quand on dit à l'avance ce qu'il faut dire dans les dialogues comme au cinéma.
C'est ce qui s'est passé.
Alors que là, attendez deux secondes, mais laissez-moi parler. Madame Brochet, je voulais qu'elle dise librement là où elle vivait, sur le logement, c'était là, si vous voulez, il y avait une préparation, une mise en scène, c'est quand on muselle, c'est quand on dit à l'avance. Je n'ai rien dit à l'avance, elle le sait, et tout le monde le sait. Et
bah c'était très préparé quand même.
Mais
regardez, je vais vous le démontrer, trois quarts d'heure avant, on a des images, on a des vidéos, je vous les enverrai, et on a du son aussi, et on entend les gens qui disent librement tout, et monsieur le Président, écoutez, donc ne le faites pas passer pour quelqu'un qui préparait, c'était pas vrai. C'est moi qui ai préparé.
Monsieur le maire, j'ai quand même une question, parce que Lucette, elle a 69 ans, et à 69 ans, j'espère qu'elle est solide parce que là elle se trouve dans un tourbillon et vous n'avez pas l'impression que vous l'avez mise dans un truc qui la dépasse complètement?
Alors c'est vous qui aussi, comme moi, comme beaucoup, en êtes responsable puisque vous êtes sur un média et vous en parlez. Vous pouvez aussi continuer à en parler,
mais
on peut le faire dignement.
Attendez,
mais ça aurait été quelqu'un. Je vais vous dire, dans son couloir, là où je suis allé dans le bâtiment, il y avait une femme qui était en fauteuil roulant qui a 85 ans. Il y avait une autre dame qui habite là. Tout le monde avait aussi des particularités. Et quelle que soit la personne que j'ai choisie, le président de la République aurait été chez la personne. Moi, j'ai demandé simplement qu'on prépare au niveau de la sécurité. Après, la parole était libre sur le thème du logement. Et moi, j'aimerais bien qu'on parle maintenant.
Madame,
elle est âgée. Attendez, elle a 69 ans.
Bah,
je vais pas me dire qu'elle est non plus. C'est pas quelqu'un. Elle a toute sa tête.
Elle a l'habitude de voir débarquer les services de l'Élysée.
Alors, ça vous gêne que le président voit des gens normaux?
Ça me gêne quand c'est mis en scène. Oui, bien sûr, ça me gêne.
C'est une relation normale.
Je vous donne ma parole.
C'est une relation normale.
C'était la relation. Je vous le dis. Je vous le dis parce que c'est vrai. Elle a dit librement sur le thème du logement ce qu'elle pensait, et je vous donne, je vous le dis clairement, je vous donnerai des images. Trois quarts d'heure avant, le président a rencontré des jeunes, des anciens, des moins jeunes, et il n'y a eu aucun souci, aucun tabou, il faut le dire. Qu'est-ce qui vous
Le président avait les questions.
Vous me dites une dame de 69 ans, mais elle habite là, la dame. Ça gêne qu'on ait été montré des gens qui habitent là? Mais
non,
qu'est-ce qui gêne?
Mais vous retournez
non, mais vous, par contre,
sûr, je vais pas montrer Poutine,
ce qui vous gêne, c'est que la journaliste, elle fait son travail, a été interrogée Lucette et que Lucette a parlé. Ce qui vous gêne,
non,
c'est que nous
sachions
qu'en fin de compte, les questions
pas.
Étaient préparées,
madame,
que le café était fait par vous, par la mairie, que les fleurs avaient été payées par la mairie, que le personnel de mairie, sur leurs heures de payer par les impôts de vos contribuables, était faire le ménage chez cette personne-là.
Madame, avec le plus grand respect que je dois à l'information et à l'indépendance de l'information et à la liberté d'expression, parce qu'on est tous les deux républicains, laissez-moi parler juste.
Mais vous ne l'aviez pas ce matin,
avec toute l'expression, et je vais vous dire ce matin, là où j'étais en colère, c'est qu'il n'y a pas une mise en scène, mais une préparation, parce que la parole était libre. Et
vous avez dit que ce n'était pas une journaliste,
Allez-y, monsieur Ablo, vous avez 30 secondes.
Voilà, 30 secondes. Le café dont vous parlez, ça coûte cher de faire un café au président de la République. C'est sûr, c'était pas du caviar. Ensuite, les chaises qu'on a emmenées. Ça coûte cher d'amener des chaises. Attendez. Si la dame, elle avait un problème aussi parce qu'elle sortait d'une opération, ça coûte cher d'avoir mis une demi-heure en place pour le président de la République dans un endroit où j'avais préparé les choses, non pas mis en scène. Ça vous embête. C'est sûr.
Merci, monsieur le maire, Stéphane Ablo de Vendôme-Renancy.
Merci de venir
t'expliquer. À demain 10h pour les grandes gueules avec Jacques Maillot, Fatima Hidounois et Didier Giraud.